Aujourd'hui, dans les coulisses du Web3, j'ai le plaisir de recevoir Auriel Ohayon, CEO de Zengo, un wallet non-custodial. On expliquera d'ailleurs ce que c'est, ce que ça veut dire non-custodial, et on reviendra sur la particularité du wallet de Zengo. Salut Auriel.
Salut.
Vous avez, avec Zengo, récemment passé la barre du million d'utilisateurs. Bravo.
C'est vrai.
Yes. Auriel, tu as cofondé Zengo en 2019, il me semble. On reviendra d'ailleurs sur la création. Pour rappel, tu vis en Israël, à Tel Aviv. On enregistre cet épisode le lundi 20 novembre 2023. Et je pense que c'est intéressant de revenir sur le contexte assez particulier que tu traverses avec Zengo, la complexité que c'est de continuer à développer l'activité d'une boîte tech dans un pays qui est en guerre. Tu es d'ailleurs assez actif sur LinkedIn sur ce sujet. Pour commencer, peut-être, est-ce que tu peux déjà te présenter, s'il te plaît?
Moi, je m'appelle Auriel. Voilà, j'habite en Israël depuis 20 ans. Je suis français, j'ai étudié en France, je suis né à Nice. Puis j'ai vécu à Paris, j'ai étudié à HEC. Puis voilà, je me suis lancé dans le monde de l'entreprise, d'abord les grandes et puis après les petites. Moi, ce que je préfère, c'est les petites, les startups. J'ai travaillé des deux côtés, aussi bien du côté entrepreneur qu'investisseur. J'ai cofondé un fonds d'investissement en France qui s'appelle Isaï, qui est assez connu. Et puis, dernièrement, j'ai lancé une société qui s'appelle Zengo, qui est un porte-monnaie de crypto sécurisé avec une technologie très avancée de sécurité. Et voilà, et j'habite à Tel Aviv.
Et alors, par rapport à Isaïe, j'ai vu, en écoutant un autre podcast, que le premier dossier que tu as vu passer, c'est celui de BlaBlaCar, c'est ça? Pas petite histoire.
Ah oui, en effet, oui. Alors ça fait un moment. On venait de créer le fonds et il fallait évidemment trouver un premier investissement. Et moi, je me souvenais avoir rencontré l'équipe de BlaBlaCar. D'ailleurs, ça s'appelait pas encore BlaBlaCar, mais enfin, peu importe, c'était autre chose. C'était
covoiturage.fr, je crois.
Covoiturage, c'est ça. Covoiturage. Et ils étaient venus me voir en Israël parce qu'ils avaient du mal à lever des fonds en France. Et à l'époque, il n'y avait pas d'Isaï. Et donc, je me disais, mais attends, mais c'est bizarre, une boîte comme la vôtre qui est hyper intéressante. Ça n'arrive pas à trouver des fonds en France. Et ben non, on est en Israël. Etc. Bref, ils ont pas trouvé de fonds en Israël non plus parce que leur concept était un peu en avance. C'était très en avance sur Uber, etc. Et quand on a créé Isaï, je prends l'équipe d'Isaï, donc Jean-David Chambourédon, PKM et les autres. Je leur dis, écoutez, les gars, j'ai vu un dossier qui est quand même pas mal. Personne ne veut le financer, mais je pense qu'il y a un potentiel. Effectivement, on a financé BlaBlaCar, mais alors c'était le premier chèque, je crois, VC, avant que ça devienne évidemment cette belle société que c'est aujourd'hui. Donc, effectivement, c'était mon premier dossier.
Ok. Et alors, pour venir sur Zengo et les cryptos, donc, est-ce que tu pourrais réexpliquer comment tu as eu l'idée de créer Zengo? J'ai cru comprendre que c'était surtout un podcast de Nick Szabo sur justement le concept de smart contract. Moi, Bitcoin, qui t'a attiré sur ce sujet?
Ah bah, tu t'es bien renseigné. Alors, tu t'es bien renseigné. Bon, alors déjà, j'ai un peu honte de l'avouer, mais en fait, je suis arrivé en fait très tard sur la crypto. J'y croyais pas. Même, j'étais plutôt anti pendant de nombreuses années, alors que tout le monde en parlait. On parle de ça dans les années 2000, 2005, etc. Donc moi, j'étais dans le Web 2. Et puis avant, j'étais dans le monde des applications mobiles. Donc pour moi, c'était ça le futur, pas la crypto. Et je rentre des États-Unis. Donc dans les 20 ans dont j'ai parlé en Israël, j'ai passé 4 ans aux États-Unis. Je rentre des États-Unis, je ne savais pas trop quoi faire. Je commence à passer du temps à apprendre différentes choses qui, d'ailleurs, aucune ne m'intéresse. Et puis, en écoutant des podcasts, je tombe sur un des podcasts de Nick Szabo, interviewé donc Nick Szabo par Tim Ferriss. Et je réalise en fait que la crypto, ce n'est pas en fait uniquement cette nouvelle forme de monnaie qui, on peut débattre, hein, est-ce que c'est utile, pas utile, est-ce qu'on en a vraiment besoin. Alors aujourd'hui, je pense que la réponse est clairement oui, mais à l'époque, ce n'était pas évident. Qui m'ouvre les yeux sur une autre dimension que j'avais complètement loupée et qui est en fait quelque chose que j'avais vu toute ma vie, c'est qu'en fait, quand tu crées une application, tu la crées sur une plateforme. D'accord, Twitter, Facebook, Apple, Google, enfin une plateforme, LinkedIn. Et donc ces plateformes ont droit de vie ou de mort sur ces applications. Elles peuvent en un bouton décider de changer leur terme de service et leurs conditions d'usage et c'est la fin d'une application. Et avec ce podcast, je commence à comprendre que notamment grâce à Ethereum, donc non pas Bitcoin mais Ethereum, il est possible de créer des applications que personne ne peut arrêter. Il lance une application et le code étant décentralisé, il est quasiment impossible, alors je dirais pas complètement impossible, mais quasi impossible de l'arrêter. Et pour moi, ça a été une révélation, que j'ai toute ma vie vu des applications qui se faisaient shooter, y compris dans des projets dans lesquels j'étais directement impliqué, par les plateformes. Et donc, si tu veux, pour moi, ça a été un moment déclenchant qui m'a donné envie de regarder un petit peu cet univers-là de plus près. Alors, ça n'a pas été le seul, il y en a eu d'autres après, mais c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à la crypto, et notamment aux outils qui permettent d'utiliser la crypto. Donc, je commence à en utiliser plein, notamment les porte-monnaies. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Et c'est à partir de là où j'ai décidé de me dire, tiens, ce truc-là a l'air important, mais c'est très, très mal fait, il y a peut-être une meilleure manière de faire.
Ok. Et ouais, bon, jusqu'à maintenant, c'est vrai que dans la crypto, de manière générale, tu veux accéder aux cryptos, si tu passes par un wallet qu'on appelle non-custodial, tu vas devoir, entre guillemets, type MetaMask, avoir une liste de clés, enfin une liste, pardon, de 24 mots à retenir, qui ont un peu un droit de vie ou de mort sur les assets détenus dans ton wallet, dans le sens où si tu perds cette liste, c'est foutu. Et toi, c'est quelque chose, justement, tu t'es dit, j'imagine, bon bah, c'est ok pour certains, pour les aficionados de la crypto, mais c'est pas comme ça qu'on va onboarder, j'imagine, le commun des mortels, enfin le mass market sur la crypto.
Ah ben, c'était pire que ça, je voyais même pas comment n'importe qui pouvait accepter cette réalité. Que tu sois novice ou pas. Enfin, pour moi, c'est une ineptie à ce jour, hein, de dire que ton avenir financier, et je pense qu'il sera bien plus que financier, mais ton avenir digital va dépendre de quelque chose que tu peux perdre. Ça me paraît complètement incompatible avec, avec toute notion de tranquillité, de modernité, de sécurité. Enfin, c'est complètement... enfin, c'est une ineptie. Et donc, c'est quelque chose qui m'a choqué dès le premier moment, bien que je comprenais la logique. La logique, elle est légitime. La logique, elle est simple. C'est dire, ben voilà, les systèmes centralisés type banque ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles ont le contrôle. C'est un peu le même problème qu'avec les plateformes et les apps. Elles ont le contrôle. Et donc, quand tu as le contrôle, ben, tu perds ta liberté. Donc, comment tu retrouves ta liberté en extrayant ce contrôle-là de plateforme centralisée et en le redistribuant dans les mains de l'utilisateur et en lui donnant le contrôle. Donc, cette liberté-là, le prix de cette liberté-là est légitime. Il faut que ça arrive, d'accord ? Parce qu'on connaît les abus de l'autre extrême. On les a vus dans les applications et on l'a vu dans le système financier. C'est pas pour rien que l'économie mondiale est dans la merde, si je puis me permettre l'expression. Désolé pour les oreilles sensibles. Et donc, donner plus de liberté à l'individu pour faire le contre-pouvoir du système centralisé, c'est quelque chose qui est noble. En revanche, cela au prix d'un système de sécurité qui peut te permettre à toi de te mettre en danger vis-à-vis de toi-même, c'est quelque chose qui est, à mes yeux, inacceptable. Et donc, quand j'ai commencé à découvrir ce monde non custodial, hein, donc pour l'audience qui écoute, non custodial, ça veut dire que le contrôle est dans les mains de l'utilisateur à 100%. Versus un système centralisé de type banque qui, lui, a les fonds et contrôle. Donc, dans la crypto, l'équivalent, ça serait une bourse type Coinbase ou Binance ou Kraken, etc. Il y a des wallets, des porte-monnaies qui permettent à l'utilisateur de garder le contrôle. Et ça veut dire quoi, garder le contrôle ? Ça veut dire avoir le contrôle sur l'hébergement, sur l'expédition et c'est sur la réception. D'accord ? C'est les trois fonctions fondamentales d'un porte-monnaie. Or, jusqu'à présent, quand moi j'ai commencé en tout cas dans la crypto, il n'y avait qu'une seule manière de faire, c'est d'avoir un porte-monnaie qui soit d'ailleurs un téléphone mobile, une application d'un téléphone mobile ou un logiciel sur l'ordinateur ou un petit stick type USB, hardware wallet, dans lequel la technologie commune, c'est qu'il faut une liste de 24 mots-clés secrètes qui permettent d'accéder et de décrypter les codes qui contrôlent l'envoi, la réception et l'hébergement de tes crypto-monnaies. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut les noter sur un morceau de papier ou quelque chose qui permet de les conserver au cas où tu perdrais ton porte-monnaie, de manière à pouvoir le restaurer sur un autre porte-monnaie quand ça arrive. Mais quel est le problème à ça ? Ben, y en a deux. Le premier, c'est que les gens font des erreurs. C'est très, très commun et ce n'est pas nouveau. Hein, les gens, on sait très bien, choisissent des mots de passe terribles. 1, 2, 3, 4, 5, mot de passe comme mot de passe, etc. Donc, sont très mauvais pour garder des secrets. Donc, les erreurs humaines sont très, 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 très communes. Puis deux, problème de hack. D'accord ? Le problème de hack avec l'extraction de clés privées ou des problèmes plus sophistiqués de type phishing. Et ce qu'on voit de plus en plus souvent aux États-Unis, le SIM swapping, c'est-à-dire la prise du contrôle du téléphone mobile à distance et donc, du coup, de l'ordinateur. Bref, quand on connaît ces deux types de problèmes-là. Les erreurs humaines et les attaques externes, on sait que la gravité du problème est extrême et ça se traduit dans des centaines de milliards de dollars de crypto qui sont partis en fumée. Donc c'est évidemment inacceptable. Et toutes les solutions qui consistent à enrober ce problème d'une couche de Nutella pour rendre le problème moins douloureux sont évidemment insuffisantes. Insuffisantes parce que le problème est toujours là. Même si on met cette clé privée dans un hardware, même si on met cette clé privée dans un logiciel hyper bien conçu, il y a toujours cette clé privée, cette liste des 24 mots-clés qu'il faut conserver quelque part dans un système de backup, quelle que soit la qualité de la solution du wallet. Bref, le problème était celui-ci. D'ailleurs, à ce jour, il y a encore sur la table, il y a beaucoup de gens qui sont archi convaincus que c'est la seule manière de faire des crypto-wallets. Et nous, à l'époque, on a regardé ça, on a dit « c'est pas possible, il faut faire autrement ». On a pris une page blanche, on a dit « comment on peut inventer un système de cryptographie qui permet de rompre avec cette logique de point névralgique unique ?» Et donc, on a regardé à toutes les options, et il y en avait plusieurs sur la table, mais on a décidé d'aller sur le MPC, en anglais « multi-party computation », qui est en fait très simple. L'idée, c'est de dire, au lieu de dépendre d'un secret névralgique unique, les secrets sont multiples et distribués et indépendants, de telle sorte qu'il n'y a aucun des secrets qui peut permettre de corrompre le système entier. D'accord ? Donc, la différence, c'est qu'il n'y a plus de clés uniques privées, mais il y a différents secrets uniques indépendants qui ne se connaissent pas, qui sont générés à différents endroits, de telle sorte que si l'un est perdu ou compromis, ben, le reste continue de fonctionner. Donc, c'est beau sur le papier. C'était innovant, mais on était le premier wallet au monde à penser à faire ça. C'est devenu depuis, non seulement Zengo a grandi, depuis c'est devenu une catégorie de dizaines de sociétés qui sont devenues toutes, enfin certaines très très grosses. Donc le MPC est aujourd'hui une industrie. Et donc on a été pionniers de cette industrie, on a littéralement inventé le concept de crypto-wallet MPC. Aujourd'hui, tu as les crypto-wallets à clé privée, c'est une catégorie. Et t'as les crypto-wallets MPC, c'est une catégorie. Et on a donc inventé ce système de cryptographie qui permet de ne plus dépendre de ce point névralgique fatal qu'est la clé privée. Ça, c'était la première innovation. On ne s'est pas arrêté là. On a aussi réinventé la manière de s'authentifier dans un crypto-wallet. D'habitude, dans un crypto-wallet ou même dans une application, il y a un login, il y a un mot de passe. D'accord ? Tu mets un login, tu as un mot de passe. Peut-être que tu as un code secret qui tourne toutes les 30 secondes, ce qu'on appelle un TOTP, un Second Factor Authentication. C'est la plupart du temps la manière dont on s'authentifie une application. Et la plupart des wallets ont un PIN code. C'est un code de 5, 6, 7, 8 chiffres qui te permet de rentrer dans ton application. C'est quoi le problème ? C'est que si quelqu'un a ce PIN code, ben n'importe qui peut rentrer dans ton wallet. N'importe qui. D'accord ? Donc, et puis, en plus de ça, il faut mémoriser ce PIN code, c'est-à-dire qu'il faut le noter quelque part. Donc c'est encore, en plus des 24 mots, quelque chose qu'il faut mémoriser, conserver secrètement et de manière sécure. Nous, on a décidé que ça ne pouvait pas être comme ça. Il fallait que la solution soit et inattaquable par un tiers, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'argent potentiellement, et puis quelque chose de plus important, parce que dans le crypto-wallet, il y a des éléments d'identité et d'autres éléments qui ne sont pas nécessairement financiers. Et deuxièmement, on voulait que ça soit extrêmement simple d'utilisation, donc plus sécure et plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a inventé un système d'authentification multifacteur sans mot de passe. Comment ça fonctionne ? On rentre un email, on reçoit un lien magique. Première étape. Deuxième étape, on donne un accès à un service cloud de son choix qu'on contrôle, iCloud, Google Drive, Dropbox, bientôt il y en aura d'autres. Et troisièmement, on fait un scan biométrique anonyme sur le téléphone qui permet de savoir que vous êtes vous. Je ne parle pas de Face ID, c'est un scan biométrique anonyme sur le téléphone. Encore, c'est une technologie dont on peut parler si tu veux. Bref, on fait ces trois étapes-là, on est dans le wallet. Le wallet est créé et de la même manière, on restaure son wallet quand le téléphone est perdu, volé, cassé, etc. On met l'email, donne le cloud, accès au cloud et on scanne le visage, boum, on est dans le téléphone. Et donc, l'avantage, c'est que c'est extrêmement simple puisqu'il n'y a rien à mémoriser, il n'y a rien à écrire. Mais surtout, c'est plus sécur parce que personne d'autre que toi peut accéder à ton compte, même si quelqu'un prend le contrôle de ton email, même s'il prend le contrôle de ton téléphone. Donc ça, c'était le point de départ de Zengo, un système radicalement innovant au niveau de la cryptographie, sans point névralgique unique, et un système d'authentification sans mot de passe, résilient à toute attaque de ce qu'on pourrait appeler de proximité. Donc c'est deux innovations majeures, et c'est comme ça que l'histoire de Zengo a commencé. Puis après, on a innové sur d'autres territoires. L'application est aussi, j'invite tout le monde à l'essayer, extrêmement moderne et agréable dans son confort d'usage. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'un, d'un, câble ou de quelque chose pour l'utiliser. Il n'y a pas besoin de... Voilà, le langage, il est compréhensible. Les écrans sont clairs, plutôt bien designés, plutôt fluides, plutôt rapides. Donc, c'est une application moderne. Et donc, on a modernisé Zengo. Et voilà. Donc, Zengo s'est développé. Et là, dernièrement, on a lancé une nouvelle innovation et dans la monétisation et dans les fonctionnalités, les capacités d'un wallet à protéger son utilisateur qui s'appelle Zengo Pro. On pourra en parler parce que c'est important. Je veux pas me demander de faire des réponses courtes. Je m'aperçois que j'ai parlé pendant un bon moment.
Non, t'inquiète.
L'innovation, ça ne s'arrête jamais. Donc, il y a tout le temps des choses à faire dans le domaine de la sécurité.
Super intéressant. Beaucoup de questions par rapport à ce que tu viens de dire. Déjà, sur la partie MPC, tu sais que moi, la crainte que je peux avoir en tant qu'utilisateur, donc pour rappel, hein, moi, j'aime bien cette image hein, pour décrire la MPC, c'est un peu les Horcrux dans Harry Potter, où il faut réunir les Horcrux pour faire fonctionner, entre guillemets, reconstituer, en fait, entre guillemets, la clé.
Oui.
Vous, comment ça fonctionne, comment, en tant qu'utilisateur, je peux avoir la certitude, justement, que les différents fragments pour reconstituer cette clé sont bien stockés de façon indépendante, bien séparés, et être sûr qu'en tant qu'utilisateur, tu vas pas te faire hacker.
Alors, plusieurs éléments de réponse. Alors, premièrement, dès le premier jour, on a compris qu'il fallait que notre code soit open source, que toute la cryptographie soit open source, non pas pour la beauté de l'open source, mais pour que des tiers puissent le valider, le vérifier et éventuellement l'améliorer. Donc, c'est un choix qu'on a fait, qui est un choix structurant. Et donc, toute notre cryptographie est open source. Si vous allez sur GitHub, il y a un GitHub qui s'appelle Zengo X.
Ouais. Et d'ailleurs, quelque chose de très différent justement par rapport à Ledger, qui a un peu au début choisi la philosophie inverse. Après, voilà, c'est d'autres notre idéologie. Mais parce que justement, le fait que ce soit open source, d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas ce risque de justement mettre la techno, entre guillemets, plus accessible entre les termes de hacker? Enfin, j'imagine qu'il y a, je sais pas, pour les deux solutions...
Il n'y a pas de monde idéal dans la sécurité. Il y a toujours des compromis avec des prix à payer. Effectivement, tu montres ton code au monde entier, donc tu le rends d'un certain côté exposé à des gens qui ont des intentions malicieuses, mais d'un autre côté, tu l'exposes aussi à des possibilités d'amélioration que tu n'aurais pas si tu le gardais en closed source. Et donc, je sais que nous, par exemple, il y a plein d'occasions où, grâce à l'open source, on a pu éviter des accidents, des erreurs, parfois des erreurs humaines. Oublions les hackers, du code qu'on aurait fait nous-mêmes et qui ne serait pas valide. Donc, le choix de choisir l'open source est pour nous un outil de résilience important. Tout n'est pas open source dans Zengo. Attention, hein, on a open sourcé la cryptographie. Aujourd'hui, la librairie MPC de Zengo, c'est la librairie MPC parmi les plus populaires dans le monde. Elle a été revue et même utilisée par des tiers plusieurs fois. Et donc, c'est quelque chose dont on est vraiment fier. Donc, il y a une vérification prouvable dans le code cryptographique de Zengo. Le deuxième, c'est la vérification par soi-même. Tout simplement. On essaye de rentrer dans son propre wallet avec... un autre email ou avec même une photo de son visage ou un masque en 3D. J'ai par exemple un masque en 3D de moi-même ici et on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à rentrer. C'est pas possible. Donc parfois, les vérifications les plus simples sont les meilleures. Hein. Et donc, vérifier par soi-même, c'est aussi quelque chose d'important. Troisièmement, la vérification par les chiffres. Donc Zengo, maintenant, ça existe depuis 4 ans. 5 ans comme société, mais 4 ans comme produit. On a 1 million d'utilisateurs. Et on a eu zéro hack. Zéro. Quand je dis zéro hack, je ne parle pas de hack de gens qui sont rentrés dans le système et qui ont dézingué tout le système. Je parle de gens qui se sont fait voler leur crypto. Voler. D'accord ? Donc aujourd'hui, la technique classique, c'est quelqu'un t'envoie un email ou un lien Twitter ou quelque chose, tu te dis tiens, il y a un super machin à gagner, etc. Tu cliques et on dit, vas-y, rentre tes 24 mots-clés pour gagner ce truc-là. Ou même, on t'envoie un faux lien pour télécharger le logiciel desktop de l'équivalent de ton hardware. Wallet. Et boum, tu mets tes 24 mots-clés, tu perds ton argent. C'est quelque chose qui est extrêmement commun. Extrêmement commun. Il y en a des pages dans Reddit, il y en a des pages dans Twitter, il y en a des gens qui perdent leur crypto, il y en a plein. Chez Zengo, ça n'arrive pas. Ça n'est jamais arrivé pour une raison simple. Il n'y a pas de mots-clés à écrire, il n'y a pas de mot de passe à écrire, il n'y a pas de seed phrase à écrire. Et donc, on a eu zéro cas de compte volé. Zéro sur 1 million d'utilisateurs. Et quand on connaît un petit peu le marché des crypto-wallets, on s'aperçoit que en fait, c'est assez remarquable comme performance. Donc la vérification par les chiffres, elle est éloquente. Elle dit par elle-même tout ce qu'il faut savoir. C'est que le système est extrêmement résilient. Ça ne veut pas dire qu'il y a 100% de sécurité, il peut y avoir des problèmes. On a eu, par exemple, récemment, une société tiers, pas concurrente, mais amie, mais dans le domaine du MPC, qui a découvert des éléments de vulnérabilité dans un cas extrêmement pointu, précis, mais quand même, sur le code cryptographique, qui permettait d'extraire les fonds à distance. D'accord ? Alors, il fallait vraiment s'y connaître et rentrer dans le code pour le voir. Et puis, c'est dans un cas extrêmement précis, mais ça veut dire ça existe. Et ça existe avec tous les systèmes de wallet. Il n'y a jamais aucune garantie à 100%, y compris au passage dans les hardware wallet. Les hardware wallet, on a l'impression que c'est en fait un miracle qui permet de tout protéger. Mais en fait, on oublie que dans les hardware wallet, tu as aussi du logiciel, ce qu'on appelle un firmware. Ce firmware-là, ben, il est des fois open source, mais la plupart du temps, il est closed source. On ne sait pas ce qu'il fait. Il peut extraire la clé privée ou il peut être mis à jour pour extraire la clé privée. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention. À partir du moment où il y a quelque chose qui inclut du logiciel, il inclut de la vulnérabilité. Maintenant, on peut limiter la zone de dégâts avec, en open source le plus possible, en demandant aux gens de vérifier par eux-mêmes, et puis surtout en vérifiant la loi des grands nombres, d'accord, hein, qui aide beaucoup à avoir un degré de confort par rapport à une solution ou par rapport à une autre.
Ok. Et donc, toujours sur cette question autour des MPC, donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, les différents fragments de la clé sont stockés où ? Donc, tu parlais par exemple... en tant qu'utilisateur, tu peux stocker sur ton drive. Donc, est-ce que j'imagine que, enfin, est-ce que c'est d'ailleurs, c'est quoi les différents points de stockage ? C'est que le drive ou il y a aussi, tu parlais aussi donc du fameux masque, donc en 3D hein, de ton visage. En fait, c'est la reconstitution des trois, c'est-à-dire lien plus lien envoyé par mail plus masque du visage plus le fichier stocké sur ton drive qui va te permettre en fait de reconstituer la clé.
Alors, on va différencier deux choses. Tu as le MPC, d'accord, et tu as l'authentification, qui sont deux couches différentes. Le MPC, c'est les secrets cryptographiques qui permettent de signer des transactions dans la blockchain. D'accord. Donc, dans le cadre de Zengo, il y en a deux. Il y a deux secrets indépendants qui, à aucun moment, ne se rencontrent ou sont générés au même endroit. Il y en a un sur le téléphone, dans ce qu'on appelle la Secure Enclave du téléphone. Et il y en a un dans le système dans les serveurs de Zengo. D'accord ? Indépendamment, ces secrets-là sont inutiles. Si quelqu'un hack ton téléphone et rentre d'une manière certaine dans ta Secure Enclave, il ne peut rien faire avec. Si on se fait hacker nous chez Zengo, il ne peut rien faire avec. D'accord ? Donc c'est inutile. C'est la conjonction des deux qui permet de faire ce travail cryptographique de danse mathématique et de signer des transactions.
Mais c'est-à-dire que si demain, par exemple, c'est-à-dire Zengo fait faillite ou la data de votre côté, elle est perdue, est-ce que ça impacte justement ce stockage, l'accessibilité de cette clé ou pas du tout ?
Alors, en théorie, oui. Ouais. En théorie, oui, mais dans la réalité, non. Pourquoi ? Parce qu'on sait que on a inventé, on ne va pas parler de toutes les choses qu'on a inventées, mais on a inventé aussi un système de recouvrement en cas de désastre absolu, donc le cas que tu évoques, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si Zengo ferme. Effectivement, hein, il manque l'un des secrets pour signer une transaction. Donc on a ce qu'on appelle l'accès garanti, la guarantee d'accès en anglais, qui est en fait un système indépendant de Zengo qui est opéré par des sociétés tiers non liées à Zengo, qui ont un job, d'accord ? Leur job, c'est de prendre le relais en cas de disparition de Zengo. Et qu'est-ce qu'elles font comme relais ? Elles peuvent faire une seule chose, c'est signer une transaction, une dernière transaction avec ce wallet-là, sans Zengo, pour que l'utilisateur puisse envoyer vers le wallet de son choix tous ses fonds. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle les guaranteed access. Donc, si pour une raison X ou Y, on explose dans un avion, on ferme la société, le code est complètement cramoisi, etc., il y a un process légal et technique qui permet à ces sociétés tiers de prendre le relais et de continuer. D'accord ? Une, c'est Escrotech, qu'on a amené dans la crypto il y a 4 ans. D'ailleurs, au passage, c'est la même société qu'utilise aujourd'hui Ledger pour leurs services payants. Donc, nous, on le fournit gratuitement.
D'accord ? Ledger Recover.
Voilà. Donc, on a amené cette société il y a 4 ans. On était la première boîte au monde à inventer ce système de recouvert cas de désastre absolu. Et il y a un holding légal qui aussi monitore le process de recouvrement et qui check tous les trimestres de voir si effectivement on est en état d'opérer ou pas. Et donc, si effectivement une des moitiés était venue à être compromise, ben, le système prend le relais.
Et dans ce cas un peu extrême, du coup, on fait appel au visage 3D de la personne plus le lien envoyé par mail ou c'est vraiment un envoi de la part de la société manuelle ? Comment ça se passe
Alors, l'utilisateur n'a rien à faire. On suppose qu'il a Zengo sur son téléphone.
Oui.
Donc, imaginons Zengo, la société, elle disparaît. À un moment donné, ça sera notifié. Il y a un système indépendant qui se met en place et l'utilisateur va recevoir une notification sur son téléphone qui lui dira « Bonjour, Zengo n'existe plus. Vous pouvez envoyer vos fonds à l'adresse de votre choix. » On leur donne à ce moment-là une clé privée. D'accord ? Donc à ce moment-là, elle est générée à partir des différents secrets qui ont été reconstitués. Ils prennent cette clé privée, ils peuvent l'utiliser dans n'importe quelle wallet de leur choix. Et l'utilisateur n'a rien à faire à part prendre évidemment cette clé privée et la bouger. Mais à proprement parler, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. L'app est déjà installée sur le téléphone. Lui, c'est déjà authentifié à l'application. Et donc, il permet de continuer sans un mot.
OK. Et une autre question que je me posais, c'est pour en partie, c'est si demain, je perds mon téléphone avec lequel je me suis authentifié sur Zengo et limite, je perds aussi l'accès à ma boîte mail. Bon, si je perds les deux d'un coup, c'est peut-être un peu too much. Et là, je perds peut-être la custodial de mes fonds ou même pas.
Non, c'est quelque chose qui peut arriver et on y a pensé. Donc, tu peux effectivement et perdre ton téléphone et perdre ton email. Tu peux aussi perdre plus que ça. Tu peux perdre ton email, tu peux perdre ton cloud et puis tu peux même peut-être perdre aussi ton visage. D'accord ? Tu peux faire une opération de chirurgie avancée. Je ne souhaite jamais un accident très, très grave. Enfin, il peut se passer des choses dans la vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Est-ce qu'on dit à l'utilisateur, débrouille-toi ? Comme disent les wallets à leurs utilisateurs quand ils perdent leurs 24 mots, débrouillez-vous, on ne peut pas vous aider. On pensait que ce n'était pas acceptable. Donc là aussi, ça te donne une idée du degré de profondeur dans lequel on est rentré. On a aussi pensé à ce cas-là. Et pour chacun des facteurs, donc l'email, le cloud, le visage, il y a un facteur de fallback, c'est-à-dire de recouvrement, qui prend le relais au cas où tu perds ton email, ton cloud et ton visage. Tout simplement, tu ajoutes un deuxième email, un autre email, d'accord ? Tu ajoutes un deuxième cloud. Donc si tu as choisi iCloud, tu peux mettre Google Drive, Dropbox, bientôt ça pourrait être aussi autre chose. Et en visage, tu peux choisir un autre visage de confiance, ton frère, ta sœur, tes parents, quelqu'un qui tu as confiance. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait que tu perdes et ton téléphone et 6 facteurs de sécurité.
Ok, donc, ouais,
effectivement. C'est possible, hein.
Oui, mais ça commence
à... Je veux dire, à un moment, il faut quand même se poser des questions si c'est des choses comme ça peuvent arriver. Donc, on a quand même creusé assez loin. Et donc, c'est possible de perdre ses fonds sur Zengo. Je viens d'expliquer comment, mais il faut vraiment le faire exprès.
Ouais. Et c'est-à-dire, ce dont tu parlais, de pouvoir ajouter des adresses mail de cloud, c'est quelque chose que tu peux faire dès l'onboarding, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de l'onboarding, plutôt que de mettre une adresse mail, tu en mets deux, de cloud et,
voilà.
Et de visage de confiance.
Et c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. D'accord ? Il n'y a pas de service de recouvrement payant au cas où tu perds des mots de passe, etc. C'est ce qu'on appelle en anglais the job to be done of a wallet. C'est la raison d'être d'un wallet. Il doit pouvoir être créé facilement, il doit pouvoir conserver de manière sécurisée tes fonds et tu dois pouvoir le recouvrer dans quasiment toutes les cas de figure sans avoir à te poser 50 000 questions. Et donc, ça, Zengo fournit ça complètement gratuitement depuis 5 ans.
Complètement. Et c'est vrai que moi, le sujet que je trouve rassurant là-dedans, c'est le fait quand même que, effectivement, plutôt que d'avoir comme second facteur d'authentification un PIN qui est facilement dérobable, là, c'est ton visage. Et le seul cas, entre guillemets, où ça pourrait être problématique, c'est si tu te fais kidnapper, entre guillemets. Mais bon, là, on rentre dans d'autres considérations où bah, là, c'est pas du wallet, mais ça dépend de ton contexte, entre guillemets.
Oui, et puis, bon, alors, on l'a pas encore lancé, mais ça va arriver. On aura une solution de sécurité aussi pour ce problème-là. D'accord ? Mais okay. le cas du PIN code qui est dérobé, c'est un cas qui est extrêmement commun. Bon, premièrement, y compris dans ton propre domicile, les gens qui connaissent ton propre PIN code, tes enfants, la femme de ménage. Parfois, il y a des appareils qui sont partagés, un iPad commun. C'est typiquement le cas. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? D'accord. Donc, en fait, et là, on rentre dans le territoire de Zengo Pro, ce qu'on vient de lancer il y a 2 mois. C'est un système, donc Zengo Pro, c'est un package d'abonnement mensuel qui donne accès à plusieurs services de sécurité avancés. Et donc, dans Zengo Pro, tu as ce qu'on appelle la protection anti-vol. La protection anti-vol, c'est quoi? C'est si quelqu'un a accès physiquement à ton téléphone, connaît ton PIN code, qui est très commun, lui. Je viens de donner quelques exemples. Mais il y a aussi des attaques où les gens les observent dans la rue et après te volent ton téléphone et après c'est game over. Ils peuvent rentrer dans n'importe quel de tes wallets, n'importe quel de tes comptes en banque et vider ton téléphone. D'accord? C'est vrai aussi dans les cas de SIM swap, le cas où la carte SIM est contrôlée par un tiers. C'est très très commun, notamment aux États-Unis. Et là, c'est game over, tout est contrôlé par l'attaquant. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la protection anti-vol de Zengo? Tu fais une transaction et au moment de valider cette transaction, au lieu de demander le PIN code pour valider la transaction, ce qui est assez commun, ou Face ID, qui, in fine, c'est le PIN code, puisque si c'est Face ID rate, ça tombe sur le PIN code du téléphone, et bien en fait, on te demande le 3D Facelock de Zengo, c'est-à-dire le scan biométrique de Zengo. Et il n'y a que toi qui peux faire ça. C'est-à-dire que si quelqu'un trouve ton téléphone, il arrive, il veut envoyer 1000 bitcoins, il veut envoyer les bitcoins, et bien on va lui demander d'être lui et ça ne va pas passer.
Ok.
Donc là, c'est une protection qui est très, 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 très avancée par rapport à tout ce qui existe sur le marché.
Et c'est marrant que tu parles de ça parce que justement, ça va être ma prochaine question. C'est, j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent être assez dubitatifs à l'idée d'utiliser leur téléphone comme hardware wallet finalement, enfin comme wallet, parce que un téléphone ça peut être facilement hackable. Hein. C'est pour ça que les hardware wallet de manière générale ont créé leur propre hardware plutôt que récupérer le téléphone. Et là, effectivement, ça met une vraie sécurité sur cet usage. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que vous avez réfléchi, enfin, est-ce que tu as réfléchi au tout début de Zengo à créer un hardware wallet, ou pour toi c'était évident dès le départ que ça allait être sur mobile?
Bah, pour moi, le fait qu'on ait besoin d'un hardware supplémentaire pour avoir un wallet est aussi une ineptie. Le problème, c'est pas parce que, enfin, tu me disais que en fait, les gens ne veulent pas avoir un wallet sur le mobile parce que c'est pas sécur, mais ils ont raison. Pour les wallets qui sont conçus à base de clés privées et de PIN. D'accord? C'est un peu comme dire, ben, je sais pas, moi, je ne vais pas conduire une voiture à 200 km/h parce que. À 200 km/h, on peut mourir, quoi. Hein? Et donc, il vaut mieux prendre un vélo, d'accord? Parce que ça va moins vite. Mais non, le vrai problème, c'est pas la voiture qui va à 200 km/h. Le vrai problème, c'est la voiture qui n'a pas le système de frein qui est adapté, le système d'airbag qui convient et le système de car crash detection qui permet de savoir que tu es en zone rouge. C'est ça le vrai problème. Donc, il n'y a pas besoin d'un autre système. Il y a besoin de faire un meilleur système. Et donc, l'idée d'avoir un hardware wallet ou un hardware tout court spécifique a du sens quand on veut faire un wallet à base de clés privées. Mais ça introduit plein de problèmes, on en a déjà parlé. Notre hypothèse de base, qui s'est vérifiée avec le temps, c'est que si tu as la bonne approche cryptographique, la bonne approche sécuritaire et la bonne approche d'expérience utilisateur de sécurité, tu rends complètement caduque ce besoin d'avoir un hardware tiers. Et c'est ce qu'ont fait très très bien les téléphones modernes. Ils ont rendu caduque tout type de hardware pour des fonctions entières. Ça a été vrai pour les appareils photo, ça a été vrai pour les compas, ça a été vrai pour, enfin, on peut prendre des dizaines pour les fax, pour les scanners, pour ce que tu veux. À la fin, ben, ton téléphone fait le boulot quand l'application est bien conçue avec le bon hardware, avec le bon logiciel. Donc, pour nous, pas de hardware. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera pas des hardware tiers dans l'avenir, pas de type crypto, mais de type pour des systèmes d'authentification, d'accord? Donc ça, c'est pas exclu, mais ça ne remplacera pas le cœur du système qui, lui, est à base de software et de cryptographie MPC. Donc, pour dire simplement, le meilleur hardware wallet, c'est ça. C'est ça, le meilleur hardware wallet. Il est déjà dans ta poche, il a déjà toutes les composantes qu'il faut, il faut juste le bon logiciel et le bon système de sécurité qui va avec.
Ok, hyper intéressant. Et tu parlais de hardware, enfin de hardware potentiel partenaire dans le futur. J'imagine que tu fais référence peut-être à des YubiKey qui génèrent des codes d'authentification, par exemple, toutes les 30 secondes, donc ces petites clés en physique, dont le token, entre guillemets, donc un jeton à 6 chiffres change régulièrement.
Ah, parfaitement, c'est un exemple. Il y en a d'autres, hein. Mais c'est une des possibilités qu'on regarde. On commence à avoir des demandes de gens qui disent, tiens, ça serait bien si, à la place de mon email, vous pouvez utiliser un hardware. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est très, très populaire, hein. Les gens, y a plus de gens qui ont un email que des gens qui ont une YubiKey. Mais il y a des gens pour qui c'est important. Donc on va pour les gens qui ont le package Zengo Pro, qui dont le système de protection avancé, dans lequel il y a la protection anti-vol, il y a d'autres services, il y a le système d'héritage, donc il faudrait qu'on en parle, c'est important. C'est un problème qui n'est pas du tout abordé par les autres toilettes. Et donc, ouais. il y aura une option de rajouter un hardware pour avancer, pour mieux protéger ton compte.
Mais alors, parlons-en de l'héritage, parce que je trouve que c'est une super problématique qui a toujours pas été craqué, je trouve, sur le marché, et c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un hardware wallet qui ne cède malheureusement, qu'est-ce qui se passe sur la récupération de ces cryptos? C'est vrai que c'est un peu une zone blanche aujourd'hui. Et comment, c'est intéressant, comment vous l'appréhendez et comment vous pensez pouvoir craquer ce sujet?
Alors, le problème de l'héritage en crypto est un problème grave et silencieux, c'est-à-dire qu'on n'entend pas beaucoup parler parce que, bon, évidemment, on ne se réveille pas tous les matins et on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire si je ne suis plus là? D'accord? Ce n'est pas la première préoccupation. Au contraire, l'être humain, et là, c'est une considération philosophique, fait tout pour éviter de penser à ce moment-là. Tout. D'accord? C'est ce fameux philosophie pascalienne où tu sais, de remplir ta journée et ton cerveau avec tout un tas de questions pour éviter de considération du problème de la mort, qui est un problème qui est déprimant et qui lui-même mortifère du fait d'y penser. Bref, on ne va pas rentrer dans les considérations philosophiques. Les gens ne veulent pas y penser. Cependant, c'est une réalité. De la même manière que les taxes seront là pour toute la vie, la mort et la vie sont liées et la mort arrive à tout le monde, à un moment donné. Donc la question, c'est qu'est-ce que tu fais dans un système où, et c'est assez unique à la crypto, il est strictement interdit de partager ton secret unique privé avec un gars, y compris quelqu'un à qui tu fais confiance. La confiance, c'est modulaire. Un jour, tu fais confiance, le lendemain, tu ne fais plus confiance. Qu'est-ce qui te permet, quel système te permet de donner, de déléguer ce secret-là sans avoir à le déléguer? C'est un problème qui est important et qui est universel. Donc, on a regardé ce problème-là, on s'est dit, tiens, ce n'est pas possible de le résoudre avec les clés privées. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que le fait de le transmettre, quel que soit le type de transmission, c'est un problème. Et puis même quand tu essayes de le faire de manière, même quand tu essayes de le faire de manière cryptographique, tu romps avec la tradition qui est de dire je vais jamais donner ta clé privée à quelqu'un d'autre. On en a bien vu les réactions du marché quand Ledger a lancé Ledger Recover. Ça a été un tsunami de critiques, parce que les gens ne veulent pas, ils n'adhèrent pas à cette idée-là que la clé privée peut être même morcelée dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc comment on fait ça? La beauté, c'est ça avec le MPC, c'est que by design, par défaut, par design, la clé et les secrets sont déjà morcelés, sont déjà atomisés. Et donc, on a créé un système qui te permet très simplement de transmettre l'un des secrets non compromis, d'accord, pas les deux, l'un des deux, vers le compte d'une autre personne, de ton choix, d'accord, quand un événement arrive. Alors, comment ça se passe? C'est en fait extrêmement simple. Et c'est une petite révolution. Tu choisis quelqu'un, imaginons que je décide que tu deviennes mon héritier. Au passage, ce n'est pas uniquement dans les cas où tu meurs, tu peux avoir une perte de mémoire, tu peux avoir une incapacité physique totale. Il peut y avoir plein de situations où tu es encore en vie et malheureusement, tu n'as plus accès à ta crypto. Donc, en avance, je te choisis, je t'envoie un email depuis Zengo. Je dis, j'aimerais bien que tu deviennes mon héritier digital. À ce moment-là, tu ne sais pas ce que tu vas recevoir. Tu sais qu'il va y avoir quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Tu ne sais pas combien, tu ne sais pas exactement quand. Tu acceptes, je choisis quand tu vas recevoir ça. Donc, c'est-à-dire, tu définis ce qu'on appelle une période d'inactivité qui commence à 4 mois minimum et qui peut aller jusqu'à 18 mois. C'est moi qui choisis ça. Je choisis cette période, je peux la moduler. Et si pendant cette période-là, c'est-à-dire 4 à 18 mois, je ne touche pas l'application, je n'ouvre jamais. Je ne réagis pas aux emails qu'on va envoyer de manière incessante pendant des semaines. Eh bien, la moitié de tes secrets, donc ton secret privé, va être transmis avec ton compte à la personne de ton choix. La personne n'a rien à faire. Elle reçoit ça comme un deuxième compte dans son Zengo, comme si elle avait son premier compte à un deuxième compte qui devient le tien. Et l'affaire est pliée. D'accord, donc c'est très élégant, c'est très sûr, ça respecte la vie privée puisque tu ne sais pas ce que tu reçois ou ça ne donne pas de raison de vouloir que quelqu'un soit mort avant qu'il soit mort puisque tu ne sais pas ce que tu vas recevoir ni quand et ça te permet de le faire ça de manière sécurisée. Et donc c'est la seule solution aujourd'hui du marché qui soit aussi élégante pour ce problème-là.
Ok, excellent. Et alors, moi, la question que je me pose, c'est, après, moi, je parle un onboarding, on va dire, si je n'avais pas de compte Zengo jusqu'à maintenant, c'est un onboarding classique où je vais pouvoir faire la vérification vidéo, plus le Magic Link, donc le lien envoyé par mail, pour, entre guillemets, instancier ma house. Mais le fait qu'il y ait, côté personne qui fait la donation, pas besoin, justement, de faire ces étapes-là, de reconfirmer via la vidéo, via le Magic Link, vu que ça a été un peu, entre guillemets, peut-être créé en avance via le smart, via un smart contract. Alors comment ça fonctionne pour...
Ah, alors, j'ai oublié de le dire, quand je t'invite, d'accord? Si moi je t'invite, tu dois avoir un compte Zengo, un compte gratuit, hein?
D'accord.
Un compte gratuit. Donc, si tu n'as pas de compte Zengo, tu installes Zengo, en 10 secondes, tu as un compte, d'accord? Donc là, ça y est, c'est prêt. Et là, tu peux accepter l'invitation.
D'accord.
Donc, c'est très simple, hein? Donc, je t'invite. Si tu as un compte Zengo, tu cliques sur un lien, tu acceptes l'invitation, c'est fini, c'est facile. Si tu n'as pas de compte Zengo, tu installes Zengo, 10 secondes plus tard, tu as un compte Zengo, tu acceptes l'invitation. D'accord?
Ok. Et ça fait vraiment penser finalement à ce dont on parlait tout à l'heure, sur le fait pour un compte donné de rajouter plusieurs personnes de confiance. En fait, c'est un peu ça, c'est que je deviens une personne de confiance, alors un peu de façon indirecte, dans un certain cas, mais c'est un peu la même chose finalement.
Oui, dans un cas, c'est pour aider à la récupération
Oui.
du compte existant.
Mmh.
Mais tu peux uniquement le compléter, tu ne peux pas déclencher la récupération. Et dans le deuxième cas, tu récupères l'intégralité du compte, mais uniquement à condition d'une inactivité prolongée pendant une période de temps dans le cadre d'un plan d'héritage.
Ok. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'un point de vue utilisateur. Est-ce que vous avez déjà beaucoup d'utilisateurs qui ont utilisé cette fonctionnalité? Est-ce qu'il y a déjà eu beaucoup de récupération parce que inactivité sur un compte qui a délégué ses fonds?
Alors, on a lancé ça il y a 2 mois et il n'y a personne qui est mort encore.
Ok.
Donc, enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. On aurait eu des gens qui auraient demandé, qui auraient posé la question sur le service client, mais il y a beaucoup de gens. Enfin, Zengo Pro, c'est un hit. Hein. On a lancé ce produit-là il y a 2 mois. Et c'est un produit qui coûte $70 par an. Et ça inclut plusieurs services, la protection anti-vol, l'héritage, la protection contre les spams NFT. Le firewall Web3 et le service client garanti en 1 heure, dans toutes les langues, par un être humain, pas par un robot. Et donc, on a lancé ça il y a 2 mois, et c'est un hit. Hein. Nos chiffres partent en mode vertical. Donc, c'est $70 par an. Quand tu réfléchis, c'est moins cher qu'un hardware wallet. D'accord? Parce qu'il faut payer, il faut souvent en acheter deux, puis même. Un coffre-fort un peu pour garder le mot-clé, etc. Bref, c'est beaucoup moins cher. Et tout le monde n'achète pas ça pour le plan d'héritage. D'accord? Il y a plusieurs fonctions. D'ailleurs, au passage, il va y en avoir beaucoup plus avec le temps. On vient de lancer, par exemple, les fonds d'écran personnalisés, premium. Tu peux personnaliser ton. C'est un peu comme un wallpaper. Il y a d'autres choses là qui arrivent dans pas longtemps. Donc, les gens achètent ça pour différentes raisons. Mais il y en a beaucoup qui ont déjà activé le plan d'héritage. D'accord? Il y a personne encore qui l'a perdu. Qu'il a activé, pardon, parce que c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de négatif s'est passé, mais bon, tout l'objectif, c'est de ne pas en avoir besoin, évidemment. C'est un peu comme un airbag, tu es content de l'avoir, mais tu espères qu'il ne va jamais avoir à se déclencher, parce que sinon, ça veut dire que quelque chose de mauvais est arrivé.
Exactement. Et d'ailleurs, par rapport à cette monétisation, c'est la première fois que vous monétisiez votre wallet ou il était gratuit jusqu'à il y a 2 mois?
Alors, le wallet est complètement gratuit. Il était déjà monétisé, mais non pas avec un abonnement. Il était monétisé avec des services d'investissement.
D'accord.
Donc, tu peux, dans Zengo, non seulement héberger, envoyer, recevoir, ça, ce qui est complètement gratuit, mais tu peux aussi acheter de la crypto, vendre de la crypto, échanger des cryptos de crypto à crypto. Donc, ce qu'on appelle le swap. Et bientôt, il y aura du staking. Et ces services-là sont monétisés, donc il y a une commission qui est prise, une commission d'affiliation, à chaque fois qu'il y a une transaction. Donc, on a déjà des revenus qui sont déjà substantiels sur ça. Alors, ce n'est pas opéré par nous, ce n'est pas contrôlé par nous, c'est cyclique parce que ça dépend de la volatilité du marché. Et donc, on a introduit une petite révolution dans le monde des crypto-wallets parce que tous les wallets fonctionnent comme ça. Hein. Tous les wallets, à part les hardware wallets qui vendent leur clé une fois, après monétisent avec ce type d'approche. Mais ce n'est pas contrôlé, ce n'est pas différenciant et surtout, ce n'est pas soutenable. Donc, on a été la première société à lancer un plan d'abonnement. qui est accessible, qui est pas trop coûteux. Alors, il y a des plans d'abonnement dans la crypto, mais c'est parfois en milliers de dollars par mois, par an. Enfin, c'est très, très cher. Mais accessible à n'importe qui permet non seulement d'apporter des services qui n'étaient pas possibles jusqu'à présent, mais qui permet aussi d'avoir un modèle de monétisation prédictible, efficace, profitable et contrôlé. D'accord ? Un petit peu comme l'équivalent de ce qu'on a vu dans le marché du VPN, dans le marché des mots de passe, des gérants de mots de passe, dans le marché des antivirus. Donc en fait, on a réinventé la manière de monétiser les crypto-wallets.
Complètement. Et d'ailleurs, tu dirais que c'est qui vos concurrents les plus, plus directs, même si ce que vous faites, c'est assez inédit et que j'ai l'impression que vous êtes un peu seul sur votre marché.
On est concurrent avec évidemment tous les wallets du marché. Hein, dès que tu te poses la question, où c'est que je vais mettre ma crypto, que tu t'appelles MetaMask, Ledger, Coinbase Wallet, Trust Wallet, Exodus, qui sont tous des très bons systèmes, hein, des sociétés remarquables, ce sont des concurrents. D'accord ? Ouais. Maintenant, si tu me poses la question, où sont nos vrais concurrents ? Pas dans le marché des wallets. Les vrais concurrents sont les exchanges, les bourses. Pourquoi ? Parce que quand tu regardes le marché, l'écrasante majorité de la crypto n'est pas conservée dans les wallets. Elle est conservée dans des bourses. Et on a vu les problèmes des bourses. Le problème des bourses, c'est que c'est une black box dans laquelle tu ne sais pas ce qui se passe. Et un jour, tu as un FTX qui arrive, tu as un BlockFi qui arrive, tu as un Celsius qui arrive, tu as un je ne sais pas quoi qui arrive. Et puis même si tu es une société légitime, tu peux te faire hacker. Un Poloniex s'est fait hacker les centaines de millions de dollars il n'y a pas très longtemps. Donc, tu n'es plus en contrôle. On se retrouve dans le problème du monde centralisé bancaire dont on parlait au début. Donc, le vrai concurrent pour nous, il est dans le marché centralisé des exchanges où la grande majorité des cryptos sont hébergés et qu'il faut refaire venir dans le monde de l'utilisateur où tu as le contrôle, mais cette fois, le contrôle avec une sécurité qui n'engage pas la perte de tes fonds.
Ok. Et d'ailleurs, je me posais la question, c'est vrai que par exemple, quand tu veux par contre te connecter à un protocole DeFi, c'est vrai que pour le coup, avec Zengo, tu ne peux pas parce qu'il n'y a pas d'extension. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez proposer à l'avenir de pouvoir justement interagir avec des protocoles DeFi ou des applications décentralisées ?
Ah non, ça, tu peux le faire déjà.
D'accord.
Tu n'as pas besoin d'une extension. Alors, il y aura peut-être une expansion desktop un jour, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, sur Zengo, tu as un lecteur de QR code, Wallet Connect, qui te permet d'interagir avec n'importe quelle application Web3. Un échange décentralisé, une plateforme d'NFT, un réseau social décentralisé. Donc, on a déjà ça. Et Ethereum est compatible avec... Zengo est compatible avec Ethereum, Polygon et bientôt avec d'autres L2, Arbitrum, Optimism et Base. Et donc, tu pourras interagir avec toutes les applications que tu veux, même sur ton ordinateur. Hein. Il suffit de scanner un QR code et puis boum, ça fonctionne.
Oui, le fameux QR code pardon, qu'on voit sur Wallet Connect, qui est en fait un agrégateur de wallet. Une question que je me posais aussi, c'est sur l'acquisition. Donc, vous avez récemment atteint les 1 million d'utilisateurs, ce qui n'est pas rien. Comment s'y prend qu'on a un wallet pour faire l'acquisition ? Parce que c'est un sujet, j'imagine, assez touchy. Comment on arrive à attirer la confiance des gens ? Est-ce que c'est beaucoup par du bouche à oreille ou faut aller chercher les clients ? Enfin, c'était quoi vos grands canaux d'acquisition ?
C'est un des plus gros problèmes de la crypto de manière générale, pas juste les problèmes du marché. Hein. Tu regardes le monde de la crypto, combien d'applications de services ont plus d'un million d'utilisateurs ? Tu ne vas pas en trouver beaucoup. C'est quelque chose qui est très, très difficile parce que c'est une industrie qui est neuve, dans laquelle le nombre de canaux d'acquisition traditionnels qui, disons-le, généralement dépendent de Google, sont restreints au maximum parce qu'il y a des règles très strictes sur ce qui peut être annoncé et fait sur Google. D'accord ? Donc Google, alors on peut rajouter Facebook pour rajouter le deuxième plus gros. Et donc, on ne peut pas utiliser les canaux traditionnels d'acquisition. Donc, il faut procéder de manière différente. Donc, dans le cas de Zengo, on a la moitié de notre trafic qui est organique et l'autre moitié qui ne l'est pas, c'est-à-dire qui résulte d'efforts marketing. Cet effort marketing, comme tu l'as compris, ne dépend pas de Google, ne dépend pas de Facebook. T'as rien à faire là-bas. Et donc, là où on est devenu vraiment très, très bon chez Zengo, c'est sur ce qu'on appelle capter l'intention. Capter l'intention, c'est-à-dire qu'il y a des endroits névralgiques, importants, où les gens déclarent une intention qu'ils ont besoin d'un wallet. D'accord ? Généralement, il y a des endroits, par exemple, type moteur de recherche dans des sites vidéo type YouTube, moteur de recherche tout court. D'accord ? On ne parle pas de la publicité qui est achetable sur ces sites-là. Donc les gens vont et disent « Tiens, j'ai besoin d'un wallet », ils vont chercher, boum, et ils vont chercher différents types de trucs. Ça peut être évidemment un crypto wallet, mais ça peut être aussi héberger de manière sécure des bitcoins ou transférer mes bitcoins depuis Robinhood à un wallet. Et donc là-dessus, sur ces requêtes-là, on est devenu très très bon. On a une équipe qui travaille là-dessus. Et tu trouveras souvent Zengo dans les meilleurs résultats. Le deuxième élément, c'est qu'on est hyper performant, même surperformant en satisfaction client pour déclencher un bouche à oreille très positif. Il y a une étude qui a été récemment publiée par G2, qui est un organisme indépendant de mesure de satisfaction sur tout type de logiciel. Ils ont fait une étude notamment sur les crypto-wallets. On est de très très loin. Excuse-moi, pas uniquement les crypto-wallets, sur la crypto, on est de très très loin, la boîte numéro 1. De très loin. Il n'y a même pas de boîte qui se rapproche en numéro 2. On a investi de manière obsessive sur le service client. On est très très bon dans le service client. C'est d'ailleurs, dans Zengo Pro, on a même un service qui donne une réponse garantie en une heure, mais la plupart du temps, c'est en 5 minutes, pour que tu comprennes un petit peu la rapidité. Et donc, ouais. Ça, c'est le deuxième élément. Satisfaction exceptionnelle par rapport à l'ensemble du marché. Et puis, troisièmement, après, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, la loi des grands nombres. Quand tu as atteint une certaine taille et une certaine notoriété, tu vois, Zengo a été notamment élu dans les top 3 des wallets les plus sécures par une société très connue dans le domaine de la sécurité. Quand tu as atteint cette étape-là, ça aide à la décision. Tu vas sur le site web, tu vois les articles, tu vois les ratings dans l'App Store, tu vois ce qu'écrivent les gens dans les différents sites, Trustpilot, etc. Ça aide à prendre une décision. Et les gens choisissent un crypto wallet, non pas par hasard. Il y a toujours une étude qui est faite avant. Hein. C'est une décision importante. C'est comme choisir un compte en banque ou choisir un compte de brokerage de stock. Tu n'en prends pas un comme ça. Même si ton copain te dit c'est top, tu vas quand même regarder, tu vas quand même étudier et après tu t'engages. Donc on a essayé d'être excellent sur tous les éléments, toutes les étapes où là les gens faisaient leur recherche avant de prendre une décision. Et voilà, donc c'est avec le temps, on est devenu on est devenu plus performant sur ces domaines-là. On est devenu, on a une très bonne réputation. Alors on est encore très loin de nos objectifs. Hein. Nous, c'est pas compliqué. Hein. La vision, c'est qu'on va être sur tous les téléphones mobiles. Donc il y a encore 1 milliard de personnes qui n'ont pas Zengo. Donc il y a encore du travail. Mais voilà. Donc on a fait une belle progression entre l'amélioration du produit, de la satisfaction autour, de la réputation. Et évidemment, des canaux d'acquisition où l'intention est déclarée.
Ok. C'est vrai que pour venir sur le service client, c'est quelque chose de très important. On parle d'argent, c'est tout de suite un sujet qui va être très nerveux. Quand tu n'as pas de réponse et tu dis « Ah, j'ai probablement perdu mes fonds » et que la réponse peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, c'est très stressant. Alors qu'effectivement, à l'inverse, avoir une réponse dans les minutes qui suivent, c'est quand même quelque chose de très rassurant et je pense beaucoup valorisé par les clients. Un dernier sujet que je voudrais aborder, donc c'est... La situation, le contexte actuel, donc Israël est en guerre depuis le massacre du 7 octobre. Comment ça s'est passé les jours qui ont suivi J'avais suivi un peu tes posts LinkedIn. Forcément, tu étais un peu déconnecté. C'est très dur de vivre ça. Et en même temps, au bout d'un moment, tu es obligé de continuer ton activité pro après avoir mis quelques jours en parenthèse. Est-ce que tu peux te livrer un peu là-dessus
C'était... Une période, c'est toujours d'ailleurs, mais très traumatisante. Très traumatisante, surréaliste. On sait ce qui s'est passé. Hein. C'est l'événement le plus grave dans l'histoire du peuple juif depuis l'Holocauste. Certainement depuis la création de l'État d'Israël. En termes de barbarité, de nombre de victimes. Très traumatisant. État de choc absolu. On a été littéralement paralysé hein, pendant des jours. Il faut savoir aussi que pendant plusieurs jours, les gens ne pouvaient pas sortir ou avaient peur de sortir de chez eux parce qu'on ne savait pas encore s'il y avait des terroristes qui étaient encore dans le pays ou pas. Donc on était vraiment en isolation absolue pendant plusieurs jours. Et la priorité absolue à ce moment-là, c'est la sécurité personnelle. Donc on a instruit à tout le monde de ne pas venir au bureau. Interdiction absolue de rester chez soi. Déprioriser toutes les choses qui sont liées évidemment au travail pour pouvoir se focusser exclusivement sur la sécurité personnelle, la sécurité de sa famille. Il faut savoir qu'en plus, depuis, et c'est pas encore terminé, plusieurs fois par jour, on reçoit des requêtes. Je pense que les gens ne comprennent pas cet aspect-là, de ce que ça veut dire de recevoir des roquettes sur ta tête, ce qui est complètement disruptif. Ça veut dire que ça interrompt tout ce que tu fais, qu'il s'agisse d'une douche, ou d'être aux toilettes, ou un meeting, ou un appel téléphonique. Il faut s'arrêter. Il faut aller dans une pièce de sécurité la plus proche. Si tu es dans la rue, il faut en trouver une. Peut-être parfois, il n'y en a pas. Et il faut se protéger. Parce que si tu ne le fais pas, tu t'exposes. Une exposition, c'est fatal. Et donc, on a vécu ça. On continue de vivre ça encore aujourd'hui. C'était très intense au début. On commence à s'y habituer, parce que ça fait maintenant plus de 5 semaines. Et c'est donc disruptif. Le deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup de... Tout le monde dans ce pays, tout le monde, vu la gravité de l'événement, connaît quelqu'un qui est mort ou qui a été kidnappé. Tout le monde. Moi, dans l'école de mon fils, il y a 2 enfants qui ont été tués. D'accord ? Je ne les connais pas personnellement, mais je sais que c'est arrivé. Donc, c'est juste un exemple personnel, mais tout le monde a une histoire à raconter. Le troisième élément, c'est qu'il y a eu 300 000 personnes civiles qui ont été appelées en réserve. Donc, ça veut dire beaucoup de gens, notamment dans les sociétés. Et donc, ça veut dire que tu vois des gens que tu connais partir à la guerre. À la guerre. Oui. Et donc, ça, c'est disruptif aussi de ce côté-là. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est un élément qui est transformatif dans ta vie personnelle, avant même ta vie professionnelle. Professionnellement, il y a un autre élément, c'est que c'est très, très difficile, encore à ce jour, d'être concentré et focusé. Parce qu'on est en train de vivre la guerre, il y a un déluge d'informations, tout le monde est inquiet de combien de temps ça va durer, tout le monde est encore exposé à ces tirs de roquettes, et donc c'est quelque chose qui affecte ta capacité morale et ta capacité à te focusser sur ce qui est généralement ton centre de gravité, c'est-à-dire ta famille, ton boulot. D'accord ? Là, tu as un troisième élément, et d'ailleurs j'ai appelé ça en anglais « work-life balance ». D'accord ? D'habitude, c'est « work-life balance », là c'est « work-life balance », c'est l'équilibre entre ta vie liée à la guerre et ta vie lié à ta propre vie. T'as une double priorité, la survie et la vie. Et donc, quelque chose qui est très perturbant, moi, c'est quelque chose que je n'avais pas connu à cette échelle-là. J'avais déjà vu d'autres conflits avant en Israël, mais pas à ce degré de gravité. Et ça, c'est pour le côté négatif. Pour le côté positif, ce qu'il y en a un, c'est que je n'ai jamais vu dans ce pays, en 20 ans de présence dans ce pays-là, une unité aussi totale dans le pays d'Israël qui est sur ces dernières années, était complètement détruite par les complexités politiques internes. Il y a une unité totale, une entraide exceptionnelle, une solidarité que je n'avais jamais vue, non seulement en Israël, mais dans aucun autre pays. Et j'ai vécu dans quatre pays, France, États-Unis, Espagne, Angleterre. Jamais vu ça. Quelque chose qui est vraiment très émouvant, très touchant, et qui donne un peu d'énergie pour survivre ces moments difficiles. Donc voilà comment moi je vis ça. C'est évidemment, en plus de ça, il faut gérer une start-up, il faut continuer de gérer ses priorités professionnelles. Quelque chose qui est quand même assez remarquable, c'est que le mois d'octobre, donc en plein mois de guerre, on a eu le meilleur mois en performance dans toutes nos métriques depuis l'histoire de cette société. Alors qu'on était en pleine guerre, quoi, dans les pièces de sécurité, etc. Donc quelque chose qui est incroyable, c'est la résilience de ce pays qui est habitué depuis 75 ans à des conflits plus ou moins graves, plus ou moins longs, mais qui se manifeste encore dans cette guerre-là. Donc la capacité à vivre, à survivre et parfois même à exceller dans les périodes qui sont les plus graves.
Merci beaucoup pour ces mots et ça marche. Bah, je te propose que ce soit les mots de la fin, Auriel. On va s'arrêter là, on est bientôt à 1 heure d'enregistrement. Je te remercie pour tout ça, et je te souhaite une belle continuation avec Zengo, hâte de suivre un peu les prochaines innovations.
Merci pour ton temps.